Donc bonjour ou rebonjour à tous. Je crois qu'il n'y a qu'à que Sylvie que je n'ai pas dit bonjour en personne ce matin. Voilà, tout le monde autrement est déjà vu. Donc aujourd'hui, nous allons terminer cette série de méditations et de messages sur la première épître de Jean. Donc ce sera le dernier message consacré à cette épître. Et ensuite, nous changerons de livre. Donc, je crois qu'on a déjà décidé du prochain texte et qui fera l'objet de mes partages une fois par mois. Donc, ça sera l'Épître aux Galates. Donc, je ne vais pas développer maintenant ce thème-là. Non, on n'a pas fini. Donc, la première Épître de Jean. Donc, le dernier message, donc les derniers versets de la première Épître de Jean, chapitre 5, verset 12. À 21. Et comme à mon habitude, vous allez l'entendre dans une version particulière qui ne va pas correspondre à ce que vous avez dans vos Bibles, puisque le texte est traduit à partir de la version araméenne du Nouveau Testament. Et bien souvent, le texte araméen nous donne des lumières, une compréhension du texte que l'on n'a pas dans nos traductions. Donc, c'est une traduction qui est un petit peu glosée. Et voilà, comme ça nous oblige à entendre une version un peu différente et par conséquent à prêter attention à ce qui est lu. Chapitre 5, versets 12 à 21. Tout homme qui saisit le Fils saisit aussi la vie. Et tout homme qui ne saisit pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous connaissiez que vous avez la vie éternelle, celle qui dure d'âge en âge, à vous qui vous confiez dans le nom du Fils de Dieu. Et ceci est l'audace ou la franchise que nous avons auprès de lui, c'est-à-dire d'être franc auprès de lui. Quand tout ce que nous requérons de lui selon sa volonté, il nous entend et nous écoute. Et si nous sommes persuadés, convaincus qu'il nous écoute au sujet de la chose que nous requérons de lui, nous sommes assurés et confiants que nous avons déjà reçu nos requêtes que nous avons requises de lui. Par exemple, si un être humain, si quelqu'un, voit son frère qui pêche d'un péché qui n'est pas coupable de mort, il requerra du Père et la vie lui sera donnée, ainsi qu'à ceux dont ce n'est pas le cas qu'ils pêchent à la mort. Car il y a un péché qui est de la mort. Ce n'est pas au sujet de ceci que je dis que quelqu'un demandera et priera. Car toute iniquité est certes péché, mais il y a un péché qui n'est pas à la mort. Il y a un péché qui n'est pas à la mort, c'est ça. Et nous connaissons que tout homme qui est enfanté de Dieu ne pêche pas, car celui-là est enfanté de Dieu et garde son âme, et le malin ne l'approche pas, ne le touche pas. Nous connaissons que nous sommes de Dieu, et que tout l'âge présent, le monde présent, est placé dans le malin. Et nous connaissons que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné la connaissance afin que nous connaissions la vérité, celle qui est ferme et affermissante, et que nous soyons en lui dans le véritable, c'est-à-dire dans le Fils Jésus, le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu. Celui-ci est Dieu véritable et la vie éternelle qui dure d'âge en âge. Mes fils, ou mes enfants, gardez vos âmes de la crainte des idoles. C'est étonnant que Jean termine son message en disant « Gardez-vous des idoles ». Donc ça fait partie des sujets, évidemment, que je vais développer un petit peu. Donc vous voyez que ce n'est pas une traduction habituelle et qu'il y a parfois des redondances et des répétitions. Afin que nous connaissions la connaissance pour connaître. Donc c'est pas pour rien que l'araméen répète les mots. Répétition est souvent mère de sagesse. Et donc, comme à l'habitude, je vais prendre quelques versets, un petit commentaire, et puis il y aura également des questions à l'Assemblée. pour que vous soyez participants du message. D'abord, dès le verset 12, la chose qui me frappe, c'est le verbe saisir. Quiconque saisit le Fils, saisit la vie. Et en araméen, c'est vraiment saisir, s'agripper. Autrement dit, cela nous demande d'être actifs. Nous devons saisir. Comme le dit Paul, je cours pour saisir Jésus parce qu'il m'a saisi. Philippiens 3, 12 à 13. Et il dit donc, je ne fais qu'une chose. Je cours pour le saisir parce qu'il m'a saisi. David, dans le psaume 73, dit, David était saisi par Dieu. Ou alors, dans le Cantique 3, chapitre 3, si on l'applique à l'Église, l'Église, l'épouse, saisit son bien-aimé. Vous voyez, c'est à chaque fois cette même idée. Je saisis et je ne lâche plus. Il y a donc un équilibre à trouver entre d'un côté, Dieu fait tout, et certains exaltent tellement la souveraineté de Dieu que Dieu fait tout, avec on ne fait plus rien, on devient passif, attentiste, voire même notre vie spirituelle se paralyse. Parce que Dieu, dans ce décret, a tout déterminé depuis l'éternité, ça devient fataliste, écrasant, et on ne fait plus rien. Si vous vous rendez compte, il ne faut pas aller contre l'œuvre de Dieu. Et on ne fait plus rien. Or là, ce passage-là, avec tous les autres que j'ai cités, nous demande de faire une chose, de le saisir, saisir Jésus. Et à l'inverse, il en est d'autres pour qui l'homme doit tout faire. Donc entre Dieu fait tout et l'homme fait tout, alors là on tombe dans l'activisme et dans l'incertitude, parce qu'on n'est jamais sûr d'en avoir fait assez pour Dieu. Et on est constamment en questionnement, mais est-ce que vraiment j'en ai fait assez? On commence à se regarder soi-même, on devient nombriliste, parce que l'homme fait tout. La parole, je pense, nous offre une troisième voie. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Et ça, c'est la part que Dieu ne fera pas à notre place. Nous devons le saisir, nous devons regarder à lui. Regardant à lui, celui qui suscite la foi l'amène à la perfection, c'est la seule chose qui soit en notre capacité, c'est celle-là. Si nous le faisons, si notre vie chrétienne se simplifie au point que nous n'ayons qu'une seule chose à faire, le chercher lui, le désirer lui, le saisir lui, alors, tel que je comprends la parole, Dieu fait tout le reste. Mais se saisir de lui, le chercher, le désirer, c'est le sine qua non, c'est la chose sans laquelle rien des promesses de Dieu ne s'accomplira. Et comme nous sommes des petits-enfants et qu'on n'est pas capable de grand-chose, Dieu nous a simplifié l'évangile, nous devons nous saisir du Fils. C'est le secret de la vie chrétienne. C'est un secret qui est compréhensible pour les enfants, mais qui n'est pas compréhensible pour les gens compliqués, les sages et les intelligents, qui se réfugient derrière des tas de théorie dans tous les sens, alors que Dieu nous demande quelque chose de très très simple, de se saisir de son Fils parce qu'il nous a saisi lui-même. Vous voyez ? Ça, c'est la troisième voie entre Dieu fait tout et l'homme fait tout. Donc je l'ai souvent dit, mais je le répète encore une fois. Ici, c'est encore plus saisissant, c'est le cas de le dire, puisque dans le verset 12, il est dit, « Celui qui se saisit du Fils saisit la vie ». C'est intéressant que lorsque Jean veut terminer son épître, il va la résumer en une chose, Jésus égale vie. Il ne dit pas Jésus égale ceci, cela. Il va dire Jésus, retenez une seule chose, la vie. Et là encore, l'araméen est éclairant parce que souvent dans les textes traduits à partir du grec, on nous dit Dieu sauve, Dieu le sauveur, Jésus notre sauveur. Et des fois, le mot sauver devient un petit peu abstrait. Sauver de quoi? Ça veut dire quoi? Alors on a tendance à dire oui, je suis sauvé. On emploie ce mot un peu à la légère. Mais l'araméen, c'est intéressant, n'emploie pas le verbe sauver. Il emploie le verbe vivifier. Dieu nous vivifie. Nous avons la vie. Il nous donne la vie. Et là, c'est concret, parce qu'on sait au fond de nous si on l'a ou on ne l'a pas. On peut toujours clamer qu'on est sauvé, mais on a la vie ou on ne l'a pas. Et la vie, c'est Jésus. Et nous l'avons par la communion avec lui. Donc l'araméen, je trouve, est beaucoup plus concret de ce point de vue-là. Dieu nous vivifie. Il est notre vivificateur plutôt que notre sauveur. Il est notre vivificateur. Il nous sauve en nous donnant sa vie par le Fils. Donc d'emblée, saisir le Fils, c'est saisir la vie, parce qu'il est la vie. En lui, Jésus est la vie, et la vie de Jésus est notre lumière. Ensuite, il est dit au verset 13, « Je vous ai écrit afin que vous connaissiez que vous avez la vie, dont on vient de parler, à vous qui vous confiez dans le nom du Fils de Dieu. » Alors là, je vais vous poser une petite question piège. Quel est le nom du Fils de Dieu? Alors, il y a la réponse immédiate, évidente, la première qui vous vient en tête, et ensuite il y en a une deuxième. Quel est le nom du Fils de Dieu? Alors, la réponse évidente, Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, Dieu vivifie. Mais il y en a un deuxième.
Emmanuel.
Je parle des noms, hein, pas les titres, les noms,
Emmanuel.
Noms propres. Alors, Emmanuel, effectivement, ça veut dire
Dieu parmi nous.
Emmanuel, Dieu avec nous. D'accord? Je pensais à un autre. Il est moins trivial. C'est celui auquel fait allusion Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et là encore, c'est intéressant, parce que quand on le lit dans les Bibles françaises, secondes, Darby, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose, en fait, qu'on ne saisit pas à partir des traductions, mais qui est évidente à partir de l'arabien. Alors, je vous le dis. Je vous le lis d'abord tel qu'il est généralement traduit. Dieu a souverainement élevé, Jésus, lui a donné, et c'est ça qui est important, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et là, on se dit, bon, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus n'est pas un nom qui est au-dessus de tout nom. C'était même au 1er siècle en Judée un nom très commun, Jésus, Yeshua. Donc, quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom? Quel est le seul nom qui est au-dessus de tout nom? Voilà, le tétragramme, Yahweh. Et c'est ce que dit l'araméen. L'araméen nous dit, afin que toute langue confesse que Jésus le Messie est Yahweh. Il est le nom éternel, le nom même de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Donc l'accent est mis sur la divinité de Jésus. Et je vous l'avais déjà, je crois, dit, en Orient, la question de la divinité de Jésus, au contraire d'en Occident latin et grec, en Orient araméophone, la question de la divinité de Jésus n'a jamais été l'objet de débat. Le débat était plus sur la question de l'humanité de Jésus, mais jamais sur la divinité. Parce que Jésus a repris sa place de Yahweh, de Dieu, le nom même de Dieu, auprès du Père. Et donc ici, se confier dans le nom du Fils de Dieu, certes se confier dans le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, mais également dans ce Jésus divin en qui il y a la vie, c'est cet être-là. Et quand je, pour ma part, quand je prie et quand je médite sur Jésus, c'est en général, c'est sa divinité qui est mise en avant. C'est-à-dire ce Fils de Dieu glorieux dans le sein du Père qui prend une forme humaine, comme ça a été dit tout à l'heure, qui devient un homme, mais qui n'est jamais exactement comme un homme. N'oubliez pas qu'à la transfiguration, il a levé un peu le voile et là on a vu qu'est-ce qui était voilé par le voile de chair, on a vu un être divin. Voyez, donc jamais perdre de vue que nous avons affaire, même dans son incarnation, à un être divin, glorieux, d'une nature qui est tout autre que la nôtre, complètement différente. Et c'est pour ça que nous pouvons regarder à lui, fixer nos regards sur lui, que nous pouvons être subjugués par lui, que nous pouvons l'admirer, que nous pouvons l'adorer. Pas à cause de son humanité, mais d'abord à cause de sa divinité, de cet être qui était en sécurité dans le sein du Père et qui pourtant vient se livrer pour nous, entièrement pur, entièrement à part, entièrement glorieux, d'une nature qui nous dépasse, d'un éclat qui nous captive, et pourtant il vient à nos côtés. Le Fils est celui de Dieu qui vient se mettre à notre hauteur pour nous parler face à face, avec un langage que l'on peut connaître. Le langage du Père, je ne le connais pas. Le Père habite une lumière inaccessible que nul n'a vue et ne peut voir. C'est un mystère complet. S'il n'y avait pas Jésus pour nous faire connaître le Père, nous n'aurions aucune idée de qui est Dieu. Donc c'est celui qui vient à notre hauteur pour nous parler face à face, visage contre visage. Jésus. Donc voyez que croire dans le nom du Fils de Dieu, croire dans le nom de Jésus, c'est bien au-delà de croire une doctrine sur l'humanité et la divinité de Jésus. C'est en araméen se confier dans la personne de Jésus. On est dans le rationnel et non pas dans le théologique. On lui fait confiance, on s'abandonne à lui. C'est une notion relationnelle. Le verset 14 est intéressant aussi. Voici l'audace ou la franchise, franchise au sens de liberté, le franc au sens de libre, la franchise que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors cette idée-là, on la retrouve plusieurs fois dans la parole, en particulier par exemple dans l'évangile de Jean, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux demander vraiment n'importe quoi? Non, il y a une condition, évidemment. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, déjà. Donc, ça veut dire si vous restez en communion avec moi. À partir de là, on ne va pas demander n'importe quoi. Dans Jean 14, versets 12 à 14, je lis juste le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et à mon sens, la première chose sur laquelle il a mis l'accent, il va y en avoir deux. La première, c'est nous sommes membres du corps du Messie. Ça veut dire qu'il est la tête et que nous sommes membres. Ça veut dire que celui qui œuvre depuis 2000 ans, voire 6000, voire de toute éternité, il n'y en a qu'un qui œuvre, c'est Jésus. Et ce qui nous est demandé, là encore, dans notre attachement à lui, c'est de devenir un membre de son corps et instrument de sa volonté pour faire les œuvres que lui continue d'accomplir depuis sa mort, son incarnation, sa mort et sa résurrection. Souvent, on se dit, mais que dois-je faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça, c'est les religieux qui avaient déjà posé la question à Jésus. Et Jésus avait répondu, il lui demandait, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Oui, plus précisément, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc on aimerait faire des tas d'œuvres pour Dieu et on oublie qu'en fait c'est Dieu qui œuvre en nous pour que nous nous confions en Jésus et que nous devenions un avec lui, cette communion avec lui, pour devenir instrument de sa volonté à lui. Donc souvent, on peut se poser des questions, mais c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie, etc. La seule réponse, elle est la suivante. Cherche Jésus, saisis le Fils, attache-toi à lui, et il va conduire les pas pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc là encore, on se fait des schémas très très compliqués en imaginant que la volonté de Dieu, c'est des tas de choses à faire, on se fait des plans sur la comète, alors que la seule chose, toujours la même, qui nous est demandée, c'est de nous attacher au Fils, et à partir de là, on devient instrument pour sa volonté à lui, parce que c'est lui qui accomplit la volonté du Père. Nous ne la connaissons pas en tant que telle. En dehors de Jésus, j'ai aucune idée de ce qu'est la volonté de Dieu. Donc c'est cet accent-là très pratique, en s'attachant au Fils dans la prière, la communion, la méditation de la parole, la confession, la repentance, etc. En fait, il nous conduit par son esprit et il nous embarque dans les œuvres que lui a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'a pas le choix des œuvres, elles sont préparées d'avance. Et pour y entrer, il faut s'attacher au Fils. Donc ça, c'est le premier point. Donc vous voyez, ça limite déjà la question de qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu. Hein, parce qu'en vrai, tiens, j'aimerais une voiture rose qui fasse 3 mètres de long, qui fonctionne à ceci, cela, ou j'aimerais une grande baraque, ceci, ou j'aimerais, voilà. Et on commence à se faire des films sur les tas de choses qu'on aimerait à faire, et très souvent, et c'est mon deuxième point, nous ne faisons qu'activer notre convoitise. Jacques 4, verset 3, « Vous demandez, vous ne recevez pas. » Petite parenthèse, c'est bien souvent pour ça que les réunions de prière finissent par démotiver nombre de chrétiens. parce qu'on lance des tas de prières pour des tas de choses. Déjà, premièrement, personne ne tient un registre pour savoir si Dieu a effectivement entendu la prière et comment il l'a exaucée. Et deuxièmement, on demande souvent des choses qui nous passent par la tête, parce que ça fait bien, mais souvent il y a des motifs cachés qui sont derrière, et là, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, vos convoitises, vos désirs, votre bien-pensance, votre bonne volonté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il ne faut pas s'étonner que les réunions de prière, assez rapidement, se désertifient, et il n'y a plus grand monde qui vient. Il y a quelque chose clairement qui manque. Je dis toujours que la prière, avant les prières, il y a la prière. Il y a toujours une prière qui précède la prière. Avant de demander quelque chose à Dieu, il faut demander à Dieu, sonde mon cœur, sonde mes désirs. Est-ce que ce que je vais demander, c'est pour moi? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour le frère ou pour la sœur? Est-ce qu'il y a des motivations cachées? Hein, on peut faire, comme les pharisiens, des belles prières en public. Mais en fait, c'est juste pour la gloriole. On peut paraître très spirituel avec de longues prières, avec un vocabulaire bien châtié, mais on est complètement à côté de la plaque. Donc vous voyez, là encore, ça met une grande restriction à demander ce que vous voulez. On ne demande pas ce que l'on veut. On demande ce qu'il veut. Mais pour ça, il y a un travail préliminaire, un travail de repentance, de mise à nu de nos désirs devant Dieu. On se sonde devant Dieu. C'est la prière avant les prières. Sinon, on prie en vain, on multiplie les paroles vaines, comme dit Jésus, mais on n'est pas pour autant exaucé, parce que Dieu n'est pas impressionné par la longueur de nos propos. Des fois, les prières les plus courtes sont les meilleures. Sauve-moi ! Voilà, et le Seigneur intervient, parce que ça jaillit des tripes, et non pas passé par un processus qui rend gloire non pas à Dieu, mais à nous. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. Jean 11, 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus savait que le Père l'exauçait toujours. Mais comme il le dit par ailleurs, « Ce que je dis, je l'entends du Père. Ce que je fais, je le vois faire par le Père. » Et c'est pour ça que Jésus était toujours exaucé. Parce qu'il ne disait que ce qu'il entendait du Père, il ne faisait que ce qu'il voyait du Père. Il n'avait pas l'initiative. La seule initiative qu'il avait, comme nous, il nous est demandé de nous saisir du Fils, lui se saisissait du Père. Et il passait du temps dans le désert, dans la prière, pendant la nuit, quand il était seul, pour connaître la volonté du Père, pour communier avec le Père et préparer la journée qui venait après, avec les œuvres qui allaient se présenter à lui. Jésus n'a pas anticipé qu'un aveugle viendrait lui demander de retrouver la vue. Il n'a pas anticipé qu'il y aurait une grande foule pour laquelle il faudrait multiplier les pains. Tout ça, c'est le Père qui le mettait devant lui au fur et à mesure. Et tout ça était préparé dans la prière en amont, dans la communion avec le Père. Donc voilà, ça met quand même une limitation à demander n'importe quoi. Non, on ne demande pas n'importe quoi. Et en dehors de la communion avec Jésus, ce verset-là n'a pas de sens. Parce que ça active notre convoitise, notre chair religieuse, et on se met à jouer un jeu. C'est pour ça que moi, je suis toujours surpris. Je me suis toujours dit, mais si dans les réunions de prière, on tenait un registre et qu'on nommait telle personne à demander telle chose, tel jour, et on laisse un petit blanc pour voir comment Dieu va répondre. Et si Dieu ne répond pas, ok, pourquoi il n'a pas répondu? Voilà, et on va demander, Seigneur, tiens, on avait demandé telle chose pour tel frère, telle sœur, ou pour tel problème. Voilà, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Ou alors tu nous demandes peut-être juste de persévérer. Ça aussi, c'est un autre point dans la prière, la persévérance. Vous vous rappelez de la veuve dans Luc 18. Elle persévérait auprès du juge jusqu'à ce que le juge lui fasse droit. La persévérance, ça c'est une autre qualité qui nous manque souvent dans la prière. C'est juste cette persévérance, hein, de s'attendre à Dieu et de voir comment il va répondre. C'est pour ça qu'il est dit d'ailleurs ici, au verset 15, nous sommes persuadés, nous sommes convaincus. Et si vraiment nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu, alors nous attendons avec persévérance jusqu'à ce que Dieu donne sa réponse. Qui n'est pas forcément celle à laquelle on avait pensé, mais il la donne. Ensuite, on arrive à partir du verset 16, dans un sujet qui est un petit peu délicat. Donc je relis le verset 16. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est pas coupable de mort, il requerra du Père, il demandera au Père. Et la vie sera donnée à ce frère ou cette sœur. Ainsi qu'à tous ceux qui ne pêchent pas à la mort. Et on s'est dit, oulala, là aussi il y a une restriction à la prière. Parce qu'il dit, si un frère ou une sœur pêche d'un péché à la mort, il dit, c'est inutile de prier. Vous voyez, là, ça devient sérieux, là. Voilà une autre restriction à la prière. On aimerait tellement prier pour le monde, urbi et orbi. Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il en est de ce péché qui mène à la mort ? Pour comprendre ce qu'il en est, en fait, je pense que les versets suivants nous donnent des pistes. Parce que Jean ne balance pas comme ça quelque chose d'aussi sérieux que ça. Si un frère pêche d'un péché qui mène à la mort, inutile de prier pour lui. Waouh ! Mais si ce n'est pas un péché qui mène à la mort, alors priez et Dieu donnera la vie. Donc ça nous demande ça du discernement pour savoir mais de quoi est-ce que Jean est en train de parler. Donc les versets qui suivent, et donc j'anticipe sur les versets 10 à 18 jusqu'à 21, nous donnent des pistes quant à ce péché qui mène à la mort. Alors déjà, quand on regarde les évangiles, à quel passage des évangiles cela vous fait penser ? Quel est ce péché qui est impardonnable, nous dit Jésus ? Le péché contre l'esprit, le blasphème contre l'esprit. Ça consiste en quoi, ce blasphème contre l'esprit ? C'est quoi ? C'est quelque chose de très précis. Non. Non, non, tout blasphème contre le Père ou le Fils sera pardonné. Par exemple, celui-là.
Attribuer une œuvre à Satan qui aurait dû être attribuée à Dieu.
Voilà, c'est une œuvre qui est clairement divine, qui atteste de l'autorité et de la souveraineté de Jésus divin par l'Esprit de Dieu. Et parce que le cœur est endurci contre Dieu et refuse de voir qui est Jésus, de l'attribuer à Satan. C'est exactement ce que dit Jésus dans Marc 3, versets 9 et 30. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel, on pourrait dire avec la première épître de Jean un péché de mort. Et le verset 30 nous dit pourquoi Jésus parla ainsi, parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc voilà, ça c'est cette résistance à l'esprit qui va finir par attribuer au diable ce qui est une œuvre manifeste de Dieu, qui rend gloire à Dieu. Voilà, c'est ça le péché. Parce qu'on peut pécher contre le Père, contre le Fils. Mais si on résiste à celui dont l'œuvre est précisément de générer en nous la foi dans le Père et ou le Fils, et le Fils d'ailleurs, on lutte dans notre chair contre le seul moyen de salut qui nous est donné. Ça veut dire l'entrée de la grâce dans notre vie. Et ça, c'est l'Esprit qui le fait. Depuis la Pentecôte, c'est l'Esprit qui le fait, directement dans nos vies. Donc effectivement, c'est une première dimension de ce péché qui mène à la mort. Dans le verset 18, j'anticipe donc, comme je l'ai dit, sur les versets suivants qui nous donnent un éclairage, il est dit qu'un homme enfanté, ou une femme, donc un frère ou une sœur enfanté de Dieu, ne pêche pas. Et dans le contexte, je comprends, de ce péché-là qui mène à la mort. Donc déjà, si nous avons expérimenté la vie de Dieu, véritablement expérimenté cette vie, nous sommes gardés à l'intérieur de nous par l'Esprit de Dieu, et le malin, comme il est dit, ne nous touche pas. C'est l'autre chose qui est dite dans le verset qui suit, le malin ne touche pas l'enfant de Dieu. Le péché qui mène à la mort est donc lié au fait de se laisser toucher, entrer, dominer par Satan. Qui a commis ce péché dans les évangiles ? Judas. Luc 22, verset 3, Satan entra dans Judas. Pourquoi est-ce que Satan a pu entrer dans Judas ? Là encore, la réponse nous est donnée au verset 21 de la même épître, quand Jean va dire au verset 21, « Gardez-vous des idoles, gardez-vous de la crainte des idoles. » Quelle était l'idole de Judas ?
L'argent.
L'argent, l'amour de l'argent, qui est la source de tous les maux, nous dit Paul. C'était l'argent. Est-ce qu'on peut citer d'autres types d'idolâtrie que l'on peut avoir dans notre vie, dans notre chair ? Les idoles. Parce qu'évidemment, quand on pense idole, on se dit oui, le monde antique, il y avait des statues, on se prosternait devant, voilà, on avait des belles idoles. Sauf que les idoles ne sont pas mortes avec la venue du christianisme, au contraire, elles se sont bien cachées, mais elles sont bien présentes pour séduire le cœur des hommes. Alors, il y a l'argent. Aujourd'hui, vous savez bien que l'amour de l'argent, c'est grosso modo ce qui mène le monde aujourd'hui. Jésus avait dit aux religieux de l'époque, ça sera moi ou ça sera maman. Donc, si on ne se confie pas en Jésus, on est livré à maman. L'amour des richesses, l'amour de l'argent. Vous voyez ? Donc ça, c'est maman, c'est l'amour de l'argent qui avait saisi le cœur de Judas. Judas pensait que pour la énième fois, oh, de toute façon, mon maître, à chaque fois que les religieux ont voulu le saisir, hop, il est passé entre les mains du filet. Bon, de toute façon, il va le faire encore. Et en plus, je vais me faire 30 pièces d'argent. C'est gagnant-gagnant. Lui, il s'échappe. Et moi, je gagne de l'argent. Malheureusement, cette fois-là, contrairement aux fois précédentes, où il était dit, car son temps n'était pas encore venu, quand Judas a fait ce deal avec le religieux, le temps de Jésus était venu. Et là, Jésus ne s'est pas échappé entre les mailles du filet. Au contraire, il s'est livré aux religieux pour aller à la croix. Et là, Judas, c'est pour ça qu'il s'est suicidé ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était trop tard, Satan était entré en lui. Est-ce que vous pensez à d'autres idoles ? Une idole, la définition de l'idole, c'est ce qui entre en compétition dans notre cœur avec l'amour de Jésus, ou l'amour pour Jésus. Tout ce que l'on aime plus que Jésus est en fait une idole. Quand Jésus dit par exemple, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors attention, la famille, j'allais dire c'est sacré, la famille est importante. Mais si au nom des liens familiaux, des liens d'affection dans les familles, on se met à mettre Jésus en deuxième, là il y a un problème. Jésus doit rester en premier. Donc la famille, même les attachements naturels, peuvent devenir une idole. Vous voyez ? C'est tout ce qui entre en compétition avec notre amour pour Jésus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ?
Les jeux,
donc tout ce qui mène à des addictions, voilà, de toutes sortes, donc les jeux, le sexe, la drogue, etc. Qu'est-ce qui peut encore être une idole ?
Soi-même,
c'est l'idole ultime. Celui qui ne renonce pas à sa propre vie la perdra. L'idole ultime, c'est nous-mêmes, en fait. Et souvent, avant de parvenir à cette idole-là, il y en a bien d'autres qu'il faut élaguer et dont il faut s'occuper avant. Je pensais à une autre, ce sont nos idéaux. Nos idéaux, et en particulier nos idéaux théologiques. Moi qui me présente devant vous et qui ai la saine doctrine, la bonne théologie, qui pense de manière orthodoxe. Voilà, on se fait des belles forteresses de raisonnement et on ne se rend même pas compte qu'on a remplacé Jésus par nos grands schémas théologiques et que par là même, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens, on se soustrait à l'obéissance qui est due à Jésus. Parce que j'ai ma manière de comprendre, c'est mon système, c'est comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le système dans lequel Dieu fait tout et nous on ne fait rien, ou alors à l'inverse, le système dans lequel nous faisons tout et Dieu on se demande qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Je ne vais pas nommer les systèmes, mais vous les reconnaîtrez. Ce sont les deux extrêmes, on se fait des forteresses de raisonnement en ne s'en rendant pas compte que par là on se soustrait à l'obéissance qui est due à Jésus. Ils ne sont pas petits enfants. Cette question des idoles, il y a un homme de Dieu qui en parle très bien, je trouve, c'est Tozer. Est-ce que vous connaissez Tozer ? Ce prédicateur et pasteur américain, Chicago, dans les années 60, qui était de son temps qualifié de prophète. Et si vous lisez les écrits de Tozer, c'est vraiment, vraiment percutant. Et voilà ce qu'il dit, par exemple, dans un de ses livres. « Avant qu'il puisse y avoir plénitude, sous-entendu de l'esprit, il doit d'abord y avoir une œuvre qui nous vide. » Alors, je traduis de l'anglais, Avant que Dieu puisse nous remplir de lui-même, il faut que nous soyons vidés de nous-mêmes. Et c'est dans ce processus où nous sommes rendus vides que vient le désappointement, la déception douloureuse et le désespoir à propos de nous-mêmes que tant de personnes ont expérimenté et dont elles se sont plaintes avant d'avoir cette lumière qui vient de Dieu. Il doit y avoir une totale dévaluation de soi-même, une mort à toute chose autour de nous et en nous. Ou alors nous ne pouvons pas vraiment connaître la vie de l'esprit. Vous voyez, la vie de l'esprit, elle vient à un prix. Il faut enlever les idoles. Et c'est ce qu'il dit. The dearest idol I have known, whatever that idol be, help me to tear it from thy throne and worship only thee. L'idole est la plus chère que j'ai connue, quelle que soit cette idole, aide-moi à l'arracher de ton trône afin de n'adorer que toi. Et donc tout ce que l'on met à la place de Jésus, tout ce que l'on met, attention, c'est très subtil, parce que Jésus, on peut le garder. Simplement, on le met en deuxième ou en troisième. Donc on va toujours dire qu'on est chrétien, on aime bien Jésus, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas la première place. Donc il y a une idole à la place. Et s'il y a une idole, on ne peut pas connaître les promesses de la parole de Dieu. Donc c'est ça l'idole, c'est ce qui va prendre la place de Jésus. Et le drame, c'est qu'on peut garder Jésus tout en gardant les idoles. Donc, dans le cas de Judas, il a vu pendant 3 ans les œuvres de Dieu. Il a vu pendant 3 ans la personne de Jésus, l'amour de Jésus, la compassion pour les foules, pour les malades. Il a vu les miracles, les signes et les prodiges. Donc vous voyez qu'on peut voir les signes, prodiges et miracles. Mais s'il y a une idole dans le cœur, ça nous ferme la voie du salut. Donc, l'exemple de Judas, je trouve, est absolument terrible. Hein, combien on se dit souvent, « Ah, si j'avais vécu il y a 2000 ans, j'aurais voulu pouvoir suivre Jésus, voir ce qu'il a fait, voir comment il a fait, entendre ses paroles de mes oreilles, etc. etc. » Ben, c'est exactement ce qu'a connu Judas. Exactement ce qu'a connu Judas. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances à venir, tout cela on peut le dire de Judas. Il a goûté les puissances à venir, il a été éclairé, il a goûté au don céleste, il a eu part à l'Esprit. Je vous rappelle qu'il faisait partie des 12 qui ont été envoyés 2 par 2 pour faire les miracles, etc. Donc il a vu la puissance de Dieu, j'allais dire, au travers de ses propres mains, au travers de sa propre parole. Il a goûté la parole de Dieu, il a goûté les puissances à venir, mais néanmoins, il est tombé. J'ai pas la bonne page. Il est tombé et ne peut être amené à nouveau à la repentance, car il a crucifié pour sa part le Fils de Dieu. Donc ne nous trompons pas de but. Notre but, c'est de connaître Jésus. Et comme je l'ai dit au départ, et c'est lui qui fait tout le reste, pourvu qu'il reste en premier. Évidemment, vous avez reconnu le passage d'Hébreux 6, hein, qui est un des passages qui fait poser beaucoup de questions. On peut bien commencer et mal finir, c'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc, Jean insiste, il y a un péché qui est de la mort, qui mène à la mort, ou qui est de la mort d'ailleurs. Ça veut dire que la mort, elle est là d'emblée, il n'y a pas la vie. C'est pour ça que le dernier passage que l'on lit donc ce matin, le dernier passage de l'évangile de l'épître de Jean, met ce contraste entre la vie et la mort. D'emblée, se saisir du Fils, c'est se saisir de la vie, mais il y a un péché de mort qui mène à la mort, un péché de mort. La vie n'a jamais été présente. Il y a eu tout le reste, il y a beaucoup de choses qui ont été imitées, mais il n'y a pas la vie, tout simplement. Et la vie, c'est Jésus. On peut faire énormément de choses, y compris dans la religion chrétienne, ou les religions chrétiennes, ou dans les églises, sans avoir jamais connu Jésus. Et je vous rappelle que connaître, c'est bien le mot en français, sur lequel d'ailleurs Jean insiste. Hein, nous connaissons le Fils, que le Fils est venu, il nous a donné la connaissance afin que nous connaissions la vérité. Voilà, connaître, connaître, connaître. En français, il y a ce beau jeu de mots, puisque connaître, connaître, naître avec. Donc connaître Dieu, c'est naître avec le Fils. Donc le Fils en nous et nous en le Fils. Connaître, naître ensemble. Pour comme il est dit dans Galates que Jésus se forme en nous. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il se forme en nous par la connaissance du Fils. C'est un processus, c'est relationnel. Ça prend du temps, comme toute relation, pour que les deux deviennent un. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6. Et nous connaissons que nous sommes de Dieu et que l'âge présent est placé sous le règne du malin. Ça nous rappelle évidemment Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la question que je pose, avons-nous connu le mal dans notre chair? Avons-nous connu le processus de repentance? Avons-nous connu que notre chair est marquée au fer rouge par la marque de la bête? Et là, je ne fais pas allusion à Apocalypse 13, mais juste simplement le fait que notre chair est marquée de quelque chose qui la rend irréformable. La chair est irréformable. C'est bien pour ça qu'il a fallu que le Fils de Dieu la crucifie sur la chair, sur la croix. Par contre, donc, Dieu n'agit pas sur notre chair, mais il nous demande de la dominer par l'Esprit, et cet Esprit nous est donné quand nous communions avec le Fils. Donc là encore, l'attaque contre la chair n'est pas directe, c'est ce que font tous les religieux. Et plus ils s'attaquent à la chair pour la réformer, et plus ça leur éclate à la figure. Parce que la puissance du péché est dans la chair, et la puissance du péché est dans la loi. Plus on essaye d'appliquer la loi contre la chair, plus elle prend puissance. Plus on désire le Fils et plus on s'attache au Fils, plus, comme il est dit dans Galates 5, en marchant par l'Esprit, nous dominons sur les œuvres de la chair. Donc l'attaque, la domination sur la chair, elle est indirecte. Elle passe par la communion au Fils qui, lui, par l'Esprit, domine sur la chair. Ce n'est pas une attaque directe comme le font tous les religieux et qui ne font qu'activer la chair. Comme il est dit dans l'Évangile, ils passaient leur temps à rendre l'extérieur brillant, bien net et bien propre, mais il ne faisait que renforcer la puissance du péché à l'intérieur d'eux. Et ça a mené au meurtre du Fils de Dieu. Vous voyez, c'est sérieux. Donc voilà, verset 20, nous devons connaître le Fils de Dieu qui nous a donné la connaissance afin que nous connaissions, et je vous rappelle, là il est dit, afin de connaître la vérité, et vous avez dû entendre dans ma traduction une vérité ferme et affermissante. Ça paraît bizarre de rajouter ces termes-là. Mais la vérité, le terme employé, en tout cas ici, en araméen, n'a rien à voir avec la doctrine. Connaître la vérité, connaître la saine doctrine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la vérité vient d'un racine qui veut dire ce qui est ferme, solide. Ça renvoie à l'Éternel et notre rocher. Il est solide, il est sûr, il est ferme. C'est le même mot qui est employé quand Paul dit « afin que vous soyez affermis dans votre cœur ». Le rôle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, donc les questions dans Jean 14, 15 et 16, ce n'est pas de nous farcir la tête de doctrine, mais c'est d'affermir notre cœur en Jésus, qui devienne notre rocher. C'est ça que dit Jean 14, 15, 16, quand Jésus nous promet l'Esprit, c'est pour que cet Esprit nous affermisse en lui, nous rende ferme, nous rende solide, nous rende mûr, adulte en lui. Voilà, je crois que j'arrive au temps. Et la conclusion, dont je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, une fois que Jean a parlé de la vie qui est en Jésus et du péché qui mène à la mort, ensuite il dit « gardez-vous des idoles ». Et donc ça fait le lien entre les deux. Donc l'idole, si elle prend la place de Jésus, à terme mène à la mort. Si l'idole est écartée et que Jésus a mis en place, il devient notre vie. Donc vous voyez que ces derniers versets, 12 à 21, il y a quand même une cohérence. La vie opposée à la mort, Jésus opposé aux idoles. Et c'est la conclusion que laisse Jean dans cette première épître. Donc je conclue juste avec une phrase. Je vous rappelle que j'avais commencé cette série sur la première épître de Jean en disant que la première épître de Jean est comme une catéchèse. Elle est adressée aux nouveaux convertis. Et il y a plusieurs éléments, en particulier dans les deux premiers chapitres de cet épître de Jean, qui nous montre qu'il s'adresse à des jeunes convertis. Et il leur parle de Jésus comme étant la lumière, il leur parle de la vie, il leur parle des stades de maturité, l'enfant, le jeune homme, l'adulte, le père. Et voilà. Et la conclusion qu'il nous laisse maintenant, et ce par quoi il résume son message, En Jésus est la vie, gardez-vous des idoles, car sinon vous ouvrez une porte vers la mort, et une mort qui ne se pardonne pas. Vous voyez, c'est sérieux. Que le Seigneur nous aide à saisir tout ça, et à nourrir de tout ça, parce que c'est le sérieux de la parole, le tranchant de la parole, qui devient efficace dans notre vie. Ce n'est pas des paroles doucereuses avec lesquelles on veut rassurer les chrétiens, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Non, c'est avec une parole tranchante, claire, qui nous met face à des choix. C'est comme ça que l'on avance spirituellement. C'est comme ça que la parole devient efficace dans nos vies. Amen.